Session de philosophie par le père Philippe à Saint-Jean-d'Arc le 4 juillet 1991.
Quatrième jour, tenez bon. Essayez d'avancer dans ce problème qui est un problème très fondamental pour nous, surtout aujourd'hui. Comment notre intelligence peut-elle, en quête de la vérité, je dis bien en quête de la vérité, c'est essentiel. Si on n'est pas en quête de la vérité, on s'arrête dès qu'il y a une difficulté. Si on est en quête de la vérité, on prend quelquefois une stratégie enveloppante pour éviter des obstacles trop grands. Et ça nous permet. Et aujourd'hui, on peut avoir une vision aérienne. Alors, je vais vous donner une vision aérienne, c'est-à-dire rapide, on va voler très haut, vision aérienne de ce que représente la philosophie première, la métaphysique. Je crois que c'est important, je vais aller très vite, hein, pour aboutir ensuite au problème qui se pose au terme de la métaphysique. L'existence d'un être premier. Est-ce possible? On a vu comment l'intelligence humaine pouvait regarder ce problème. Alors comment il se pose? Et une fois qu'on a découvert l'existence d'un être premier, d'un esprit, amour, subsistant, que nous appelons Dieu. L'homme qui découvre Dieu peut réfléchir sur ce qu'il est, comment existe-t-il et quelle est la relation qui existe entre mon « je suis » et le « je suis de Dieu ». Et c'est tout le problème de la création. Et à ce moment-là, dès que je découvre cette dépendance radicale de moi-même à l'égard de Dieu, de tout l'univers à l'égard de Dieu, de tous les hommes à l'égard de Dieu, Créateur. L'acte profond de l'homme de répondre à cette dépendance par un acte d'amour fondamental, un acte de confiance qui est l'adoration. Et c'est l'adoration qui constitue l'homme religieux. Voyez bien la démarche successive, des paliers successifs. Je ne découvre pas la religion, mais l'homme religieux. Parce que la religion, c'est abstrait. L'homme religieux, c'est concret. Et je peux, à partir de l'adoration, comprendre les grandes attitudes de l'homme religieux. Que nous verrons demain. Alors, vision aérienne. De sorte que c'est pas étonnant qu'il y a beaucoup de choses qui se poseront. Je fais un vaste tableau pour que vous voyez mieux. Nous partons de l'expérience Ceci est l'expérience impliquant le jugement d'existence. Et à partir de ce ceci est, donc Pierre, moi, j'existe. Je suis. Je pose la question tout de suite. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Toute la recherche philosophique est commandée par les interrogations, comme du reste toute recherche scientifique. L'interrogation est un moment capital. Et il s'est remis très en lumière aujourd'hui. C'est très ancien. Socrate, c'est le père des interrogations. Et ça redevient très actuel. À ce point de vue-là, il y a un dépassement de la dialectique. On n'interroge pas. L'interrogation, qu'est-ce ? Le ti esti grec, qu'est-ce ? Qui présuppose ceci existe. D'existence. Qu'est-ce ? Et à cette interrogation, je découvre ce qu'on appelle la cause, selon la forme. Puis vous posez la question en quoi ? Vous posez la question d'où ? Et en vue de quoi ? Vous pouvez poser une question nouvelle sur le modèle de quoi ? C'est les interrogations dans l'ordre de la connaissance en vue de la vérité. Pour connaître pleinement une chose, il faut connaître sa cause. Sa cause, c'est-à-dire sa source. D'où ça vient ? La cause est un principe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas remonter plus loin. Vous voyez, quand vous suivez un cours d'eau, vous remontez à sa source. Et si vous remontez au-delà de la source, il n'y a rien. Et c'est comme ça que vous déterminez que c'est la source. Parce que si vous remontez, et puis qu'au bout d'un certain temps, vous retrouvez le cours d'eau, vous dites, ah, peut-être que c'est souterrain, et c'est la même source. Et vous êtes inquiet, vous cherchez. Mais si vous ne trouvez rien après, ce au-delà de quoi je ne peux pas remonter. C'est ça le principe. Vous voyez, vous précisez un principe d'une façon négative. Ce au-delà de quoi je ne peux pas remonter. C'est ça la source. La source, quand je dis selon la forme, c'est-à-dire selon sa détermination. La forme, c'est la détermination. Une chose est déterminée. Le mot forme, opposé à matière, se découvre dans la première analyse que nous faisons des réalités. C'est l'œuvre d'art. N'oubliez pas qu'au plan génétique, donc dans l'ordre génétique, c'est la philosophie de l'art qui est première et fondamentale. C'est la porte d'accès pour la philosophie. Alors quand vous voyez une œuvre d'art, cette table c'est une œuvre d'art, elle est faite par les hommes. Une œuvre faite par les hommes. Vous regardez tout de suite sa détermination. C'est une table. En quoi est-elle faite ? Du bois ? Ou du plastique ? Ou un mélange ? Ici, c'est du bois. Pour vous, c'est du plastique. En quoi ? Pas étonnant, ça se dégrade. N'est-ce pas ? Donc, c'est ça. Mais c'est quand même une table. Puis vous êtes assis sur une chaise. allez mieux que la vôtre. C'est là encore, vous voyez, c'est quelque chose qui est en bois. C'est quand même mieux. La distinction matière-forme, il faut toujours la reprendre au niveau de l'analyse d'une œuvre artistique. C'est là qu'on la découvre, en premier lieu. Et ensuite, analogiquement, je dis bien analogiquement, vous la retrouvez partout, jusque dans les sacrements, qui est une œuvre de l'Esprit Saint, une œuvre de l'artiste. L'Esprit Saint, c'est un grand artiste, l'artiste de l'amour. Alors vous pouvez voir matière-forme. Et vous distinguez toujours matière-forme. La pénitence, matière, l'accusation de ses fautes, c'est de la matière. La forme, l'absolution. Oui, c'est très simple de découvrir matière et forme. Dès qu'on revient toujours à l'œuvre d'art, c'est capital ça. Si on veut comprendre un tout petit peu Aristote, il faut le comprendre à partir de cette porte, matière-forme. Puis alors ça retrouve partout. Alors c'est pour ça que je dis la cause selon la forme, parce que c'est à partir de cette détermination. En quoi, quand je découvre en quoi, c'est la cause matérielle. Je ne dis pas la cause selon la matière. D'où cause efficiente. L'origine. D'où ça vient. En vue de quoi? Cause finale. Sur le modèle de quoi? Cause exemplaire. Et une fois que vous avez découvert ce qu'on appelle ces pourquoi, dans le langage post-Auguste Comte, c'est pas un concile, mais post-Auguste Comte. C'est les pourquoi. C'est tous les pourquoi, ça. En réalité, c'est les tiesti grecs. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il y en a cinq. Après, vous posez la question du comment. Comment? Comment ça se trouve? Comment ça se réalise? Quand je découvre la matière, mais comment cette matière se présente à moi? Sous la forme d'une planche? Ou sous la forme d'une matière synthétique? Oui, le comment. La différence entre la planche et la matière synthétique, c'est du comment. Ça peut aller très loin, tu vois. C'est comment. Vous voyez, le comment est beaucoup plus concret. J'aboutis au concret. C'est le pos grec. Regardez dans l'évangile, Marie pose la question du comment. Comment cela peut-il se faire? Oui, comment cela peut-il se faire? On vous dit d'aller à Lyon, vous ne connaissez pas du tout, vous dites comment? Vous ne dites pas pourquoi? Le pourquoi, c'est parce que vous devez aller à Lyon, voir le cardinal. Voilà le pourquoi, la finalité. Rendre une visite, je dois aller à Lyon pour voir un médecin. Finalité. Un ami. Je ne veux pas poser. Vous ne dites pas comment est cet ami? Mais non, vous le connaissez. Comment y aller? Oui, c'est alors tout à fait concret. Le pourquoi, c'est l'analyse. Ici, je suis en face de l'analyse. J'analyse. Et je peux tout analyser comme ça. Une analyse philosophique. Il ne faut pas le faire trop systématiquement, ça devient un peu bête. Très difficile à manier. De manier avec beaucoup d'intelligence les interrogations, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Vous voyez, c'est comme quand vous voulez prendre une photographie, hein, vous bien l'accès. Et on voit tout de suite celui qui sait vers une photographie, puis celui qui ne sait pas appuyer sur un bouton, puis un autre bouton, il oublie de regarder. Il ne voit plus que le comment. Tandis qu'au contraire, là, c'est l'analyse. On voit qu'est-ce qu'on va regarder. Alors, j'analyse en interrogeant qu'est-ce que c'est que l'être. c'est très difficile puisque l'être, il est partout. Il est partout, l'être. La chaise. Donc je m'assieds dessus. Je m'assieds sur l'être. Puis je suis suspendu. Le ciel, c'est l'être. Partout, partout. C'est très, très difficile à bien comprendre qu'est-ce que c'est que l'être. Et quand je pose la question qu'est-ce que c'est que l'être, comme l'être se donne à moi de multiples manières, Aristote a inventorié les manières dont l'être se donne. Il a fait un étang, vous savez, comme à l'armée, on fait un étang. Comme une carte d'identité, on fait un étang. Les cheveux de l'être, couleur des cheveux. Grandeur, signe spécial, signe caractéristique. Ce qu'on appelle les 10 prédicaments, mais je n'entre pas dedans. Et pour ceux qui connaissent un peu, c'est intéressant de se rappeler. C'est inventorier l'être, toutes les modalités de l'être. L'être est qualitatif, les qualités, ça existe. La quantité, c'est pas de l'air la quantité. Je pèse 110 kilos. Les rations, c'est important. L'action, je suis capable d'agir. Je bâtis. Je suis situé dans le temps. Je suis à tel lieu. Tout ça, c'est les modalités de l'être. Ce qu'on appelle les 10 prédicaments. Vous voyez, et depuis Aristote, on n'a pas bougé beaucoup là-dessus. On les a plus ou moins bien compris. Ça, c'est sûr. C'est pas commun du tout. Aristote donne ça comme si c'était clair. Je crois que c'est une propédeutique, les 10 prédicaments. Mais c'est intéressant, on les retrouve. Je pourrais très bien développer ça énormément quand je pose la question qu'est-ce que c'est que l'être ? L'être, il est qualité, il est quantité. L'être, c'est être à tel endroit. L'être, c'est être dans telle situation, je suis assis. Et ainsi de suite. Puis la dernière catégorie, l'usage, l'habitus, l'usage. Ça, c'est propre à l'homme. Un fumeur de pipe, ça fait partie de la physionomie de l'être. Cet homme ne veut être photographié qu'avec sa pipe. Et ça existe, ça. Il veut être photographié qu'avec sa pipe. S'il n'a pas sa pipe, ce n'est pas lui. Il y a des gens comme ça. Ils veulent être photographiés de telle manière. Alors c'est ce qu'on appelle l'habitus. Ce que l'animal n'a pas. J'avais vu. Sauf au cirque. Une vache avec une pipe. Ça fait quelque chose comme spectacle. Ça c'est pour le... C'est pas réel. Vous voyez, ça fait pas partie des prédicaments de la vache. Les 10 prédicaments, c'est pour l'homme. C'est pour l'homme. Et je vois que le prédicament le plus fondamental... correspond donc à l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» C'est ce que, en grec, on appelle « lousia », qu'on a traduit en latin « substantia » et qu'on a traduit en français « substance ». Ricoeur, quand il a donné un cours à Sorbonne sur Aristote, a voulu reprendre le terme grec. Alors il a traduit étance. Et ça, l'inconvénient, c'est que c'est pas un mot français. Étance. Est-ce que votre étance va bien ? Étance. C'est pas un mot français. C'est un calque grec. Ousia. Parce que dans le terme ousia est compris on, ontos, donc étant. Alors il dit étance. Je crois qu'il vaut mieux tout simplement prendre un mot classique en comprenant bien qu'au point de vue étymologique, le mot ousia grec et le mot substantia latin ont deux aspects totalement différents. Tous les équivoques. Vous savez, les mots, quand on ne les comprend pas bien, c'est source de tout. savez bien, j'ai mon langage philosophique. J'essaie qu'il soit le plus simple possible. Mais forcément, on est obligé de préciser. C'est difficile de ne pas parler de la substance quand on parle en métaphysique. Qu'est-ce que c'est que la substance? C'est la source de toutes les déterminations dans l'ordre de l'être. Pour nous, pour que ce soit plus facile, c'est pas tout à fait correct, mais on a le droit de faire ça dans une vision aérienne. Notre substance, c'est notre âme. Notre substance, c'est notre âme. C'est la source de toutes les déterminations qui sont en nous. De toutes les déterminations humaines. Entre deux, il y a le corps. Et le corps apporte son conditionnement. Et l'atavisme apporte des déterminations et du conditionnement. Très difficile à bien voir le partage des deux. Mais c'est vrai que l'âme est source de toutes les déterminations qui sont en moi. En passant par le conditionnement du corps. Il y a l'âme et le corps. Eh bien, la substance, c'est la source de toutes les déterminations dans l'ordre de l'être. Alors, vous voyez comment on découvre la substance. On la découvre comme une source. On la découvre comme un principe. Or, pour découvrir un principe, on a une méthode spéciale où on a un raisonnement spécial qu'on appelle l'induction. C'est le passage du multiple vers l'un. Le principe est toujours un. Et les expériences sont multiples. Vous allez tout de suite comprendre. Si vous voulez découvrir en vous ce principe d'unité qui est en vous. Il y a un principe d'unité. Hein. Depuis votre plus ancien souvenir, quand vous étiez dans le berceau, vous vous souvenez bien, quand vous étiez dans le berceau, jusque maintenant, il y a quand même pas mal de petits changements. Ça a changé quand même, hein, la taille, la physionomie, la couleur des cheveux, ça a changé énormément. Puis il y a eu quelques petits accidents. Mais il y a eu des petits changements aussi. Il y a eu des blessures. Ça se montrait sur le visage. Le visage d'un enfant. Le visage d'un vieillard. Et le même. Quand vous montrez un vieillard, son visage d'enfant, c'est le même. Et c'est tout autre. Mais c'est le même. Comment se fait-il que c'est toujours moi? Il y a donc une source qui est la même. Depuis votre berceau, depuis votre naissance, et même depuis le sein maternel, jusqu'à maintenant. Ça, vous êtes bien obligé d'accepter ça, si vous voulez vous comprendre. Vous pouvez voir que le conditionnement a changé complètement. Vous êtes né au tropique, en Afrique, vous êtes en France. Et entre deux, vous êtes passé par l'Algérie. Changement, conditionnement très différent, mais il y a continuité. Vous n'allez pas dire il y a diverses réalités, non, c'est il y a une unité du vivant. Et cette unité du vivant réclame donc une source. Vous voyez, l'induction, c'est le passage de la multiplicité des états ou des déterminations à la source qui donne l'unité. Je découvre donc l'unité selon la forme qu'on appelle la substance. Je me pose la question ensuite, en quoi l'être? Eh bien, je dis, il n'y a pas de réponse. Il n'y a y a deux philosophes qui ont dit et qui ont répondu à cette question. Averroès et Lénine. Vous savez que Lénine a commenté la métaphysique d'Aristote. Il l'a commenté. Et Lénine dit que la matière est cause propre de l'être. Par le fait même, tout être est matériel. Il n'y a pas d'âme spirituelle. Dieu est impossible. Mais une petite confusion. Quand je pose la question « En quoi est l'être ?» Et vous voyez, la confusion, elle vient très facilement. J'ai dit tout à l'heure « L'âme et le corps ». Mon corps fait partie essentielle de mon être. Vous êtes bien d'accord? Si mon corps fait partie essentielle de mon être, la matière fait partie essentielle de mon être. C'est bien évident. Alors, la matière est donc principe de l'être. On voit très bien comment Averroès et Lénine arrivent à dire ça. Alors, réfléchissons. Au niveau de la vie, c'est vrai, il y a âme et corps. Au niveau de la vie, il y aura toujours une certaine dualité. Puisque j'ai des opérations purement spirituelles, quand j'aime. Puis j'ai des opérations très végétatives, quand je mange. Quand je dors. Si je regarde mon être est un. Donc il y a une seule source de mon être. Et pas deux mon être, j'ai pas deux êtres. L'être de mon âme et l'être de ma vie, et l'être de mon corps. Vous n'avez jamais vu une âme séparée. Ça doit être assez impressionnant. Hein, une âme séparée. Le soir en vous endormant, oui, vous mettez vos chaussures d'un côté, mais vous ne mettez pas votre âme de côté. Votre âme s'endort. Et quelquefois, elle a beaucoup de peine de s'endormir quand elle a été très blessée. Avant de vous endormir, vous avez reçu un télégramme, un coup de téléphone qui renverse tout ce que vous aviez prévu. Allez dormir maintenant. Si vous êtes très tendu, vous n'arrivez pas. C'est difficile pour une âme de dormir. Hein. Elle doit arriver à s'abandonner. Hein. Quand je dors, comme disait le vieil Aristote, je me remets au rythme de l'univers. C'est très beau, du reste. Je me remets au rythme de l'univers. C'est pour ça que ceux qui sont lunatiques, c'est-à-dire qui ont une fragilité particulière à l'égard de la lune, quand il y a pleine lune, ils aboient comme un chien toute la nuit. Ils n'arrivent pas à dormir, c'est la pleine lune. Ils n'avaient pas fait attention, ils n'arrivent pas à dormir, qu'est-ce que c'est? Ils regardent, ah, oh, c'est la pleine lune, c'est pas étonnant, c'est le mauvais jour. Alors, aboyez. Et la nuit se passera très bien. C'est curieux, hein? Quand on dort, on se remet au rythme de l'air. Il faut que notre âme cesse de dominer. Et quand vous vous réveillez, c'est votre âme. Ce passage est très très important. Alors, il faut comprendre que, au point de vue de mon être, il y a une unité. Je mange, je pense, je dors, je me réveille. Je. Il y a une unité. principe fondamental, c'est la substance qui est principe de détermination. La matière est indéterminée. La matière n'est qu'un conditionnement de l'être. Elle n'est pas un principe propre de l'être. Une fois que vous avez découvert ça, vous ne pouvez plus être disciple de Lénine. Impossible. Vous voyez la grossièreté de Lénine. Il a confondu être et vie. Confusion commune. Confusion qui vient d'Averroès. Averroès, un des disciples d'Aristote. Il y a beaucoup de disciples d'Aristote qui, au fond, regardent Aristote, c'est le philosophe de la matière. Et donc, nécessairement, il doit faire de la matière un principe d'être. Pas du tout. Il fait de la matière le premier conditionnement substantiel de l'être. Il y a un conditionnement substantiel de l'être. C'est la matière, c'est le corps, conditionnement de ma vie. Donc je ne peux pas m'en passer. Tant que je suis sur la terre, je ne peux pas m'en passer. Je suis obligé de passer par ce conditionnement. Il est fondamental. Il est radical. Mais ce n'est pas un principe propre. Donc pas de cause propre. Matérielle de l'être. C'est la même chose pour la cause efficiente. C'est beaucoup plus difficile à saisir ça. Mais c'est la même chose. La cause efficiente est toujours cause du devenir, du mouvement. Or l'être est. Il n'est pas en mouvement. L'être comme tel, c'est la vie qui est en mouvement. Le vivant se meut. Et l'être, il est. Parménide, le vieux philosophe que Heidegger aime tellement, Parménide dit ça admirablement. L'être est au-delà du devenir. L'être est. Donc pas de cause efficiente de l'être. Quand je découvrirai Dieu comme créateur, je ne le découvre pas comme cause propre de l'être, mais comme cause première de ce qui est, d'une réalité subsistante, pas de l'être. Parce que là, c'est l'analyse. Quand je pose la question en vue de quoi, la cause finale, alors là je peux dire oui, je découvre que dans l'être, il y a une finalité. C'est-à-dire l'être atteint quelque chose d'ultime. Il n'y a rien au-delà de l'être en acte. Et c'est l'être en acte. Et l'être en acte se distingue de l'être en puissance. Alors là aussi, je découvre la cause finale de l'être. C'est ce qui est le plus difficile. Heidegger reconnaît que c'est le sommet de la philosophie grecque et qu'on n'a jamais dépassé ça. C'est intéressant d'entendre ça de Heidegger. Et je crois que Hegel aussi. Il le dit d'une autre manière. C'est le sommet. C'est l'Himalaya. On découvre l'acte d'être. Et c'est là où on découvre que l'exister laisser l'atteindre. C'est l'être en acte. J'existe. C'est l'être en acte. Cet être en acte existe avec de la potentialité, c'est évident. Il y a en moi des quantités de potentialité, tout mon conditionnement. Tout mon conditionnement est source de potentialité. Mais il y a quelque chose qui est en acte en moi. Puis il y a À côté de cela, il y a le vrai. Il y a la bonté. Il y a cinq modalités de l'être en acte. L'exister, le vrai. Et le bon, c'est pour l'esprit. L'esprit est en acte quand il atteint le vrai. L'esprit est en acte quand il aime la bonté. Puis, il y a les opérations vitales. Et puis, il y a le mouvement. Le mouvement, c'est l'acte du monde physique. Le monde physique est en acte par le mouvement. Et les opérations vitales, c'est l'acte du monde des vivants. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Vision aérienne. Il y a cinq sommets. Quand vous passez de Rome à Genève, vous regardez les sommets. Les sommets, les cinq. Cinq modalités de l'acte. C'est très très important de comprendre ça, parce que en comprenant ces modalités, vous comprenez en même temps l'être en puissance. L'essence. Ah, vous découvrez vraiment ce que c'est que l'essence. La capacité d'exister. Nous avons tous une essence particulière. Il y a l'essence de l'homme, il y a l'essence du singe. C'est pas la même. Et l'essence, c'est la capacité d'exister. Capable d'exister ou de pas exister. Vous avez la même chose pour le vrai. Le vrai en puissance, c'est quoi? Si vous prenez le vrai dans ce qu'il a de plus acte, c'est-à-dire la vérité, c'est le jugement intellectuel. Mon jugement peut être vrai ou peut être faux. Et il est parfait quand il est vrai. Vous avez au niveau de la bonté, la volonté, l'acte volontaire, l'opération volontaire. Quand elle touche, quand elle atteint la volonté, c'est l'amour. Donc vous pouvez mettre l'amour. Puis des opérations vitales, les puissances. Puissance vitale et le mouvement, le corps physique. Oui. Quand on découvre les modalités de l'acte, on découvre les modalités de la puissance. Et quand on découvre la primauté de l'acte sur la puissance, on découvre la cause finale au niveau métaphysique, au niveau de l'être. Tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. C'est ça la finalité. Au sens le plus fort. La finalité radicale de tout, c'est ça. Tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Mais tout ce qui est en puissance, selon les cinq modalités, dépend des cinq modalités de l'acte. Vision aérienne. Au plan métaphysique. Ensuite, je regarde la propriété de l'être. Après avoir découvert les causes, je regarde la propriété de l'être. C'est l'un et le multiple. L'un, propriété de l'être en acte. Le multiple, propriété de l'être en puissance. C'est la propriété. Et c'est là où je découvre que la métaphysique est une vraie science au sens grec, épistémé. La découverte des causes pour découvrir les propriétés. Là. Et toute ma métaphysique se termine en découvrant comment l'être se présente à moi. Comment l'être le plus parfait, le plus acte, le moins en puissance, le plus substance, le plus un, se présente à moi. C'est la personne humaine. Le pose, le comment ultime des réalités que je peux expérimenter. La métaphysique est toujours à base de l'expérience. C'est la personne humaine. Donc, le dernier problème métaphysique, c'est la personne humaine. Ça, c'est très important de comprendre ça. On peut découvrir la personne humaine, la personnalité humaine au niveau psychologique. C'est même très important. Et je peux découvrir la personne humaine au niveau métaphysique. Et je dois découvrir la personne au niveau métaphysique. Vous voyez, toute la métaphysique est ordonnée à la découverte de la personne humaine. Si je fais la métaphysique, c'est pour savoir ce qu'est la personne humaine. Il y a en elle un principe d'autonomie, la substance, son âme. Mon âme est principe d'autonomie. Il y a en elle un conditionnement qui la met en dépendance de l'univers, le corps, avec toute sa complexité. Il y a en moi mon exister. Je suis. Ah, voilà. Je suis. Je suis capable de dire ça. Vous voyez, au terme de la métaphysique, je dis je suis. C'est mon autonomie. En même temps, le je suis, c'est le je suis de l'esprit. Seul l'esprit peut dire je suis. Avoir conscience de notre autonomie, de notre être, de notre exister. Le je suis est capable d'atteindre la vérité. Je suis, et je vous dis que c'est vrai. Je suis conscience que c'est vrai de dire je suis. Je suis, et je suis capable d'aimer, j'aime. J'aime une autre personne humaine qui est mon ami. L'ami. C'est la personne humaine vue chez l'autre. Je suis conditionné par toute ma vie biologique. Je suis conditionné par toute ma vie affective, passionnelle. C'est très vrai. Je suis conditionné par mon imagination. Tout ça, c'est je suis. C'est riche le je suis, vous savez. Quand j'imagine quelque chose, c'est moi. Quand j'aime passionnément quelque chose, c'est moi. Quand je mange, c'est moi. Quand je dors, c'est moi. Vous dites, je suis fatigué ce soir, il faut quand même que je dorme un peu. Que je dorme un peu. C'est votre je suis qui veut dormir. Alors qu'est-ce qu'il fait pour dormir? Votre je suis. C'est pas commun. Avoir conscience qu'on dort. Ça, c'est... Si vous l'avalez, vous l'assimilez, elle n'est plus la vache, elle est vous. Oui, je prends ça exprès sous ce mode facile, mais qui contient tout. La métaphysique, elle est simple, vous savez. Il n'y a rien de plus simple. C'est nous qui la compliquons. L'être est simple. Ça vaut une peine énorme à l'atteindre. Alors, à partir du je suis, je me pose la question, je suis, c'est l'être le plus parfait que je peux expérimenter. Ah, voyez, ça c'est satisfaisant. Hein. C'est très satisfaisant de dire que je suis, c'est l'être le plus parfait que je peux expérimenter. Je ne peux pas expérimenter un être plus parfait. Je peux découvrir un être qui soit meilleur. Ah! Oh. La bonté, je peux la découvrir dans l'autre, mais pas l'être. Ah, c'est curieux, ça. Je ne peux pas être pour moi-même ma propre finalité. Mais je suis pour moi-même l'expérience de l'être la plus parfaite que je fais. Je suis. Je suis bon. Oui, mais dès que je dis je suis bon, ah, mon ami est meilleur que moi. Et tant que vous dites que mon ami est meilleur que moi, l'ami reste l'ami. Le jour où dit, oh, mon ami est bien moins meilleur, bien moins bon que moi. Je suis meilleur que lui. C'est plus votre ami. C'est fini. Très intéressant pour distinguer si votre ami reste votre ami. Votre ami, c'est toujours votre bien, celui qui vous finalise. Mais le jour où vous dites, oh non, non, je me suis trompé, oh non, c'est moi, je suis bien meilleur que mon ami. Vous placez au-dessus de lui, ce n'est plus votre bien, ce n'est plus votre fin. Tandis qu'au point de vue de l'être, vous avez toujours cette suprématie. Je suis, je me connais au point de vue de l'être mieux que l'autre. Et au point de vue de l'amour, c'est l'inverse. Alors vous voyez, confusion entre être et bien qui fait que Lévinas est dans une impasse. Il ne peut pas l'être autrement. Alors, je me pose la question. Suis-je l'être suprême? Alors je peux dire tout de suite non, puisqu'à côté de moi il y a quelqu'un qui peut se poser la même question. À côté de moi, il y a quelqu'un pose la même question, suis-je ? Il n'y a pas de raison que ce soit lui ou moi. Si je suis réaliste, il n'y a pas de raison. Surtout si mon ami est meilleur que moi et qu'il est mon bien. Et c'est là l'expérience philosophique de l'ami, comme c'est riche. Ça m'empêche de m'arrêter à moi. Mais ça ne m'empêche pas de dire que l'expérience de mon exister, c'est capital. Alors je me pose la question, existe-t-il un être suprême ? Ça ne peut pas être moi, ça ne peut pas être mon voisin, ça ne peut pas être tous les êtres que je vois. Mais existe-t-il ? Vous voyez, l'interrogation à partir du « je suis » prend une force énorme. C'est la personne, le pose de l'être, la personne, le « Dasein » de Heidegger. C'est la personne, ma personne, qui se pose la question, existe-t-il un être premier ? Et quand j'ai compris que c'était à partir de là, quelle est mon expérience ultime ? Parce que s'il existe un être premier, un être suprême, vous savez, quand je fais une montagne, je gravite en montagne, la montagne la plus haute que je peux voir, c'est pour regarder le lever du soleil. Moi, je voudrais regarder le lever du soleil, métaphysique. Quel est le lever du soleil, métaphysique ? C'est découvrir qu'il existe un être premier, un être suprême. Donc, je dois normalement partir de ce qu'il y a de plus élevé en moi. Qu'est-ce qu'il y a de plus élevé en moi ? J'aime mon ami. Point de vue expérience immédiate, c'est ce qu'il y a de plus élevé. L'amour me permet de me dépasser. Et l'ami que j'aime, qui est une personne humaine, et que j'aime comme personne humaine, dans sa dignité de personne humaine, c'est ce qu'il y a de plus élevé, parmi mes expériences immédiates. Alors je pars de cette expérience, je suis celui qui aime Pierre, Jacques. Je suis celui qui aime Jacques. Je suis celui qui aime Étienne. Ainsi de suite. Hein. C'est tel ami. Ça, tout le monde peut comprendre ça. Et c'est là où je suis en face du Dasein de Heidegger. L'être parfaitement présent à lui-même et se dépassant. Allant au-devant de l'autre. C'est merveilleux, ça. C'est la grande, grande expérience humaine. C'est la plus grande expérience humaine. Et voyez, ce qui est très important, c'est de voir que là, l'expérience du « je suis » est parfaitement actuée. Et l'expérience du « ceci » est parfaitement actuée. J'aime Pierre. Pierre existe. Il est ceci. Et je l'aime dans sa personne, en tant qu'il existe. Et je l'aime pleinement. Voilà la grande expérience. Après, je dis, mais cet amour qui existe et qui est tout tendu vers l'autre, cet amour qui existe et qui est tout tendu vers l'autre, il ne peut pas être premier dans l'ordre de l'amour, dans l'ordre de l'exister. Pourquoi ? Parce qu'il est limité. Mon amour vis-à-vis de Pierre, si grand qu'il soit, illimité. Pierre, Jacques, Jean peuvent mourir. Même si je les aime. C'est terrible, ça. L'amour que j'ai pour eux devrait me permettre d'être gardien de leur être. Et de les empêcher de mourir, quoi. Puisque je les aime. Je veux pas qu'ils meurent. Mais le drame, là, Nietzsche a saisi ce drame. Parce que Nietzsche est la philosophie du drame intérieur, de la tension. Et c'est là qu'elle est la plus grande. Et quand j'aime vraiment quelqu'un, à la rigueur, je dirais, moi je peux disparaître, mais pas lui. Et c'est vrai, ça. Parce qu'on l'aime plus qu'on ne s'aime. Parce qu'on est tout entier tourné vers celui qui est l'ami, qui existe. Alors, si je m'aperçois, j'ai l'expérience de la limite de mon amour et la limite de mon être. Cette limite montre qu'il y a en moi une potentialité. Seul l'être limité est en puissance. Je limite l'amour. Et l'amour en soi n'est pas limité. Et l'être en soi n'est pas limité. Alors, tout ce qui est en acte, je veux dire, tout ce qui est en puissance, dépend de ce qui est en acte. Je saisis un amour limité, donc en puissance, et il est en acte, puisque c'est moi qui aime. Il y a donc nécessairement un être antérieur, présent dans mon amour, caché dans mon amour, qui est source de mon amour, et qui est l'amour personnel, qui est l'amour parfait, qui est l'amour qui est, pour lequel le « je suis » et ceci est identique. C'est celui que les traditions religieuses appellent Dieu. Au moins la tradition judéo-chrétienne. Dieu est amour. Je crois que pour nous, aujourd'hui, c'est toujours par là. Causalité finale qu'on doit se poser le problème. Autrement dit, ce que saint Thomas situe comme cinquième voie, nous la prenons comme première. Et nous pouvons le faire grâce au « je suis ». Il faut alors comprendre que rien n'est plus naturel que l'amour d'amitié. Rien n'est plus naturel pour une personne humaine que d'atteindre sa fin propre. Et l'ami est la fin propre de l'homme, de la personne humaine. Oui, c'est curieux, hein ? Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. S'il est seul, il n'atteindra pas Dieu, philosophiquement parlant. Il atteint Dieu grâce à l'ami. Oui, c'est le plus grand don métaphysique que peut faire l'ami à son ami. C'est d'être pour lui une obligation métaphysique de poser l'amour premier. Là, il faut beaucoup réfléchir là-dessus. Oui, c'est la voie la plus directe, la plus immédiate pour moi, de poser l'existence. Vous voyez bien, non pas d'un être premier, personne première, d'un esprit premier, qui, lui, est l'être premier. Alors, il faut bien comprendre comment l'être, s'il est parfait, s'il est parfaitement lui-même, est esprit. Et l'esprit, quand il est parfaitement lui-même, est être. Je crois que c'est la nostalgie de toutes les philosophies qu'on appelle ontologistes, nées du néoplatonisme. Il y a toujours quelque chose de vrai dans les erreurs. Et très souvent, les erreurs, ce sont des nostalgies qui veulent conclure trop vite. Mais on se précipite. Quand on a une très grande nostalgie, on se précipite. On veut prendre tout de suite. C'est le problème de la nostalgie. Il y a une nostalgie fondamentale en nous. C'est découvrir notre source. Que voulez-vous ? On ne veut pas être orphelin. On veut découvrir d'où on vient. La source. Vers quoi on tend. Notre finalité. On veut découvrir ça à tout prix. Alors on a la tentation de confondre être et esprit. En nous, être et esprit sont distincts. Au plan métaphysique, je n'ai pas la même expérience de l'être et de l'esprit. J'ai l'expérience de ceci est et j'ai l'expérience de ce je suis. Mais je sais que ces deux expériences sont liées entre elles. Ce sont deux expériences différentes, mais si l'être est parfait, il est acte. Et l'être en acte implique la vérité, implique l'amour, bonté, l'amour de l'ami. C'est extraordinaire, ça, de voir comment l'être rejoint l'esprit par l'être en acte. C'est l'être en acte qui m'oblige de comprendre que l'être est esprit. Mais je respecte toujours la distinction par rapport à moi-même. Parce que l'expérience de l'être n'est pas l'expérience du « je suis ». Toutes les deux sont des expériences de l'être. Mais l'une est première selon l'ordre génétique. Et l'autre est première selon l'ordre de perfection. Selon l'ordre génétique, le ceci est premier. Selon l'ordre de perfection, le je suis est premier. Mais je ne peux pas identifier l'ordre de recherche et l'ordre de perfection. Parce que tant que je suis sur la terre, il y a toujours en moi quelque chose qui peut se perfectionner. Je ne peux jamais dire, ça y est, je possède la vérité. Non, je la cherche. Je ne peux jamais dire, je suis l'amour. Non, je tends. Celui qui croit posséder l'amour n'aime plus. Celui qui croit posséder la vérité n'est plus vrai. C'est rude, hein, ça. Mais faut être à cette école-là. Autrement, on ne recherche plus la vérité. Il faut être à cette école-là. Autrement, on n'essaie plus d'aimer toujours plus. C'est pas commode d'être un homme. Il est à la fois Dieu, je ne dis pas qu'il est diable en même temps, mais il est à la fois Dieu, il est un être imparfait. Il tend vers Dieu. Il tend vers Dieu. C'est un être qui doit reconnaître l'absolu. celui qui porte en lui, et en même temps qu'il a cette nostalgie d'absolu. Cet absolu qu'il porte en lui, il ne le possède pas. Il en a la nostalgie. Il tend vers ça. Et c'est la distinction très simple que fait saint Thomas. Saint Thomas fait cette petite distinction entre l'union affective et l'union effective. Et c'est toutes les autres distinctions qu'on retrouve. Substance et accident, acte et puissance. Tout le temps, tout le temps. Parce que l'être que je ne saisis pas en plénitude. Analogique, c'est-à-dire à travers la diversité de ses modalités, je saisis son unité. C'est grâce à une induction que je saisis le principe et la cause. Je n'ai pas l'intuition du principe, l'intuition de la substance, l'intuition d'être en acte, mais je le saisis à travers un raisonnement inductif. Seconde voie, il y en a cinq. C'est facile à comprendre, puisqu'il y a cinq modalités de l'acte. Donc il y en a cinq. Il n'y en a que cinq, il n'y en a pas d'autres. Seconde voie, je suis celui qui cherche la vérité. Je peux dire ça dès que je fais un peu de philosophie. Je suis celui qui cherche la vérité. La vérité, qu'est-ce que c'est? C'est l'adhésion, l'adéquation qui se fait dans une adhésion entre ce que je pense et le réel. Je suis vrai quand ce que je dis est conforme à la réalité. Autrement, je ne suis pas vrai. Falsifie la vérité. Alors, je cherche la vérité. Je vois que j'ai quelque chose de vrai en moi et que je n'atteins pas. Je peux l'atteindre, mais je peux la toucher, mais je ne la possède pas. Je tends vers la vérité. Donc, dans cette recherche de la vérité, il y a un absolu. Pas de limite à la vérité. Je ne peux jamais dire, maintenant je m'assieds, c'est suffisant, ça y est, j'ai découvert la vérité. Jamais je peux dire ça. Et plus j'avance, plus je vois que c'est faux de dire ça. Je l'ai dit quand j'étais jeune. Mais on ne peut pas le dire après. Un enfant dit ça. C'est même un signe, vous voyez, souvent d'immaturité. Ce que je dis, c'est vrai. Puis alors il tient là. Mordicus. Et par le fait même, tout ce que les autres disent, c'est faux. Et j'entre en guerre à ce moment-là. C'est un fanatisme. C'est un signe d'immaturité. Le sage sait qu'il tient quelque chose de la vérité, qu'il la cherche, et que la vérité est au-dessus, au-delà. Tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Si je possède quelque chose de vrai dans mon intelligence, petite parcelle de vérité, je dépends de celui qui est la vérité, en qui il y a identité entre sa connaissance et lui-même dans son être. Celui-là est ce que toutes les traditions religieuses appellent Dieu. Voyez ? c'est vraiment la personne, l'intelligence de l'être premier que j'atteins. Ça qui est merveilleux, que celui qui tend la vérité est témoin d'existence de Dieu. Et c'est vrai, ça. C'est la grandeur de celui qui cherche la vérité. Tandis que celui qui s'enferme dans son opinion, en disant c'est ça la vérité, il n'est plus témoin. Il ment. Il est un idole. Heureusement que personne ne l'adore. Il se fait idole. Je vous affirme. Et celui qui dit je vous affirme, la seule vérité, c'est ce que je vous dis. Alors suivez-moi. Donc vous voyez, il se fait idole. Il se fait celui qu'on va adorer. Qu'on va reconnaître comme l'absolu. Il n'y a que Dieu. Troisième voie, je suis. Et je pourrais ne pas exister. Et c'est vrai. Et si je n'existais pas, vous continueriez d'exister. Votre existence n'est pas dépendante de la mienne. Il n'y a que les parents qui peuvent dire, hein, « Oh, si je n'avais pas existé, tu n'aurais pas existé. Si on ne s'était pas marié, tu ne serais pas. » Il dit ça les jours d'orage. Quand même, il faut reconnaître que c'est grâce à nous que tu existes. Petit gosse, il dit, « Non, maman, c'est pas à cause de toi. » Oui, oui, petit conditionnement. Mais mon âme est créée par Dieu. Alors, tu as obéi à ce conditionnement, c'est vrai, pas plus. Je dépends dans mon être, je ne dépends que de Dieu. Dans mon être, je vois la limite de mon être, mais je ne vois pas celui qui est cause immédiate de mon être. Qui est cause immédiate de mon être, de mon être spirituel, de mon affirmation « je suis ». J'existe. Je suis donc capable de ne pas exister. J'ai en moi un relent de néant. Hein? Ça, c'est très existentiel. J'ai un relent de néant. Et c'est vrai. Il ne faut pas trop le sentir. Parce qu'alors, on tombe dans le précipice. Mais c'est vrai. Il y a en moi une présence de non-être. Catherine de Sienne, mystique, le dit. Le néant. Je suis plus proche du néant que de l'être. C'est vrai, parce que l'être, tout court, il n'est pas du tout présent au néant. Tandis que moi, je suis entre les deux. J'ai du néant et de l'être. Tout ce qui est limité, tout ce qui est en puissance, dépend d'un être en acte. Première modalité de l'être. Première modalité de l'acte, je veux dire. Donc je dois poser un être qui est absolument nécessaire, au-delà de toute contingence. Vous voyez, le fil à plomb, c'est toujours la causalité finale. Vécu selon les cinq modalités que je vous ai données tout à l'heure. Et là, je retrouve la tertia via de saint Thomas, qui est la plus moderne, la plus proche des modernes. Elle est extraordinaire, la tertia via. Saint Thomas montre qu'on porte en nous un relent de néant. Via la quatrième voie, je suis un vivant. Mais ce vivant, il est limité. Or, le vivant comme tel n'implique pas de limite. Il y a donc J'existe, je suis. Mais je suis mu. Je suis dépendant d'un tout de l'univers. Je voudrais qu'aujourd'hui il fasse froid. Je ne peux pas commander ça. Quand Jésus commande à la mer, vous, les apôtres, ont peur. Qu'est-ce qu'il peut commander à la mer, si ce n'est Dieu? Quand vous êtes auprès de la côte sauvage, en Bretagne, essayez de commander. Tais-toi, un peu de calme aujourd'hui. Puis vous mettez à caresser le... rien du tout, continue. La mer se rit de vous, de votre commandement. On est un être limité dans notre corps. Il faut donc qu'il y ait un être au-delà de l'univers, puisque l'univers aussi est limité dans sa matière. La matière n'est pas première dans l'ordre de l'être. Elle n'est pas première, elle est pure puissance, et mon corps m'harmonise à cette matière. Il faut donc qu'il y ait un être au-delà de toute matière, immatériel, spirituel. Ça, c'est le moment très très important, vous voyez. Le je suis qui rencontre l'autre je suis et qui rencontre ce je suis qui est au sens absolu. Pose la question, quelle est la relation qui existe? D'abord, je montre qu'il est esprit, que sa vie c'est la contemplation, de la contemplation. C'est ce qu'Aristote a dit. C'est très beau de voir ça chez quelqu'un qu'on considère comme un païen. Aristote dit que l'être premier est acte pur. On n'a pas fait assez attention à ça. Moment-là que je me découvre comme partie être.